Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Rentrée parlementaire confirmée pour demain lundi 16 septembre. Conformément à l'article 115 de la Constitution, une session essentiellement budgétaire et les dispositions sont prises pour qu'elle s'ouvre dans les meilleures conditions, assure le rapporteur de l'Assemblée nationale. La population de Tchomi en Ituri, rassurée par les patrouilles MONUSCO FARDC dans cette zone, souvent ciblée par les groupes armés locaux, ces derniers qui recrutent d'ailleurs parmi les jeunes désœuvrés, la population locale l'a fait savoir cette semaine à une équipe de Radio Okapi en mission sur place. Et puis, l'invité de ce matin, Patrick Bala, président de l'ASBEL, Alliance pour la Nouvelle Vision du Congo, il nous parle de la loi Bala, un nouveau système politique pour un Congo congolais, proposition de loi présentée récemment à Goma. Madame, Messieurs, bonjour. La rentrée parlementaire prévue constitutionnellement pour ce dimanche 15 septembre est confirmée tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat pour demain lundi 16 septembre, conformément à l'article 115 de la Constitution de la République. À l'issue d'une réunion vendredi du bureau de l'Assemblée nationale, présidée par son président Vital Kamerhe, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement a précisé que cette session sera essentiellement budgétaire. Jacques Joly a par ailleurs précisé que toutes les dispositions ont été prises tant au niveau du Parlement que du gouvernement pour que cette session s'ouvre dans les meilleures conditions et que les matières à traiter soient déjà disponibles. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, est au micro de Michel Kifindangoy.
Cette session sera essentiellement budgétaire. Au niveau du gouvernement, l'avant-projet budget a déjà été adopté en Conseil des ministres. Cet avant-projet sera incessamment déposé à l'Assemblée nationale, mais il fallait passer en revue toutes les questions liées aux préparatifs d'abord techniques. Il a été aussi abordé le préparatif purement parlementaire, le projet de l'ordre du jour qui sera soumis aux parlementaires, mais il fallait aussi examiner les questions liées à la finalisation et à la maturation des organes de pilotage de l'Assemblée. Nous avons le bureau, mais il faut que les commissions permanentes soient constituées, que le groupe parlementaire soit effectif et que toutes les autres structures de gouvernance parlementaire puissent être mises en place.
Pendant ce temps, le Parti Union pour la démocratie et le développement du Congo, UDDC, a organisé hier à Kinshasa une conférence débat sur les défis du développement de la RDC 64 ans après l'indépendance. Des orateurs ayant défilé à la tribune de ce forum ont estimé que la formation à la base et la bonne gestion de la chose publique peuvent favoriser le développement du pays. Le compte-rendu de Blaise Ndongala Mayanda.
Lors de son speech, le président de l'IDDC a affirmé sa conviction que le développement de la RDC devra premièrement partir de la formation de la population, surtout des jeunes, sur le civisme. Charles Bamana.
Aujourd'hui au Congo, les gens ne savent pas distinguer les biens communs et les biens publics ou les biens privés. C'est ainsi que l'IDDC se donne cette mission-là d'aller vers la population, lui amener une formation civique pour que nous ayons les bons citoyens qui vont travailler pour la société.
Après la formation, estime ses cadres politiques, l'IDDC se propose d'amener la même population à apprendre les métiers pour son autonomisation dans la société.
Et après, quand ils auront compris, deuxième phase, nous allons leur dire comment on peut créer du travail.
À son tour, le professeur Alain Yele pense que malgré la formation, la RDC a besoin d'une population et une bonne culture politique qui devra se traduire par le respect des valeurs démocratiques.
Que les Congolais sachent qu'on m'a donné un mandat, c'est pour un temps. Il faut que je travaille pour les biens du Congo et non pas pour mon propre bien, pour privilégier l'intérêt général.
Pour sa part, l'abbé Georges Ndumba a invité les Congolais à privilégier la cohésion et l'unité nationale, gage non seulement de la paix, mais également de toute marche vers le développement.
Et puis, la situation économique et sociale dans le Sud Kivu est préoccupante et nécessite une rigueur du gouvernement provincial pour redresser les choses. Tenez, une bouteille d'eau qui se vend à 500 francs congolais ailleurs, à Chabunda, elle revient à plus de 10 000 francs congolais. C'est ce que rapporte le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Didier Kabilouganiwa est en mission à Kinshasa pour justifier les sanctions prises par le gouverneur contre certains cas de la province. C'est entre autres la révocation du ministre provincial de l'économie. Didier Kabilouganiwa, porte-parole du gouvernement du Sud Kivu, explique au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons parlé de la révocation, de la suspension de certains cadres de l'administration publique provinciale, notamment dans les secteurs de la mobilisation, de l'encadrement de recettes au Sud Kivu. On a mis en place des intérimaires qui sont contrôlés au quotidien par le gouverneur de province. La province, à l'arrivée du gouverneur, pouvait mobiliser jusqu'à 600 000 dollars le mois. Mais pour avoir suspendu tous ces gens qui sont impliqués dans les détournements de deniers publics, dans la corruption, la province a quitté de 600 000 à 1 million de ça pour le premier mois. Et de 1 million 200 à 1 500 000 pour le deuxième mois. Justement parce qu'il y a du sérieux dans la maximisation des recettes de la province. Les infrastructures routières sont la priorité du gouvernement provincial. Le secteur agricole est également une de priorités. C'est anormal que vous puissiez constater par exemple que des populations autour de mines présentent encore des signaux de kwashiorkor. Alors on travaille avec le gouverneur sur la possibilité que ces minerais puissent avantager les mêmes populations qui sont impactées par le projet minier.
Merci de nous recevoir à Chomia. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Ici, la population salue les efforts de la MONUSCO dans la sécurisation de cette entité. En appui au FARDC, elle l'a fait savoir mercredi à une équipe de Radio Capi en mission dans cette zone sur le littoral du lac Albert. Selon ses habitants, les patrouilles qu'effectuent les casques bleus de la mission onusienne et l'armée les rassurent dans ce milieu souvent ciblé par les groupes armés locaux. Reportage de Martial Kizabiamongo.
La situation sécuritaire dans la région de Chomia, chef-lieu de la chefferie de Bahema Banyuagi, reste volatile selon des sources sécuritaires. En cause, la présence dans la zone de jeunes en armes communément appelés autodéfense, ainsi que des miliciens de la CODECO qui s'affrontent régulièrement avec le FARDC. Pour sécuriser la population, les casques bleus de la MONUSCO et le FARDC organisent des patrouilles diurnes et nocturnes à travers la cité de Chomia. Témoignage de Baudouin Alingera Mouigi, employé à la chefferie.
Nous constatons que la présence de la MONUSCO rassure. Les casques bleus mènent des patrouilles partout, ce qui rassure notre sécurité.
Au site de personnes déplacées de Nyamusasi, à l'entrée du centre commercial de Chubia, ces vulnérables souhaitent que la base temporaire de la MONUSCO, qui était installée à moins de 300 mètres, puisse devenir permanente. Germain Bounadello, le président des déplacés de Nyamusasi, déclare que depuis l'arrivée de la MONUSCO, ils vivent en toute quiétude.
À l'absence de la MONUSCO, nous étions dans l'insécurité. Les femmes étaient régulièrement menacées par de la CODECO.
Mais pour la population, la solution durable reste le rétablissement de la paix totale dans cette région. Des retours de Chomia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Entre-temps, à Goma, un nouveau groupe des présumés bandits armés, soit une soixantaine, ainsi que quelques biens volés, ont été présentés hier devant la presse à la mairie de Goma. Ils ont été interpellés par les services de sécurité durant la semaine. C'est dans le cadre de l'opération Safi Chamoudjou à Goma pour lutter contre l'insécurité grandissante au chef-lieu du Nord Kivu. Des précisions dans ce reportage de Bernardine Diambou.
Ils étaient au total 68 civils, hommes, femmes, jeunes, ainsi que 9 présumés bandits armés qui ont été présentés devant les médias locaux. Le maire de la ville a demandé à la population de Goma et ses environs de lui faire confiance, mais aussi de collaborer afin de pouvoir démanteler les derniers réseaux des criminels qui insécurisent la population. Les commissaires supérieurs principaux Kapend, Kamando, Faustin.
Tout ce que nous demandons à notre population, c'est de nous accorder la confiance et qu'on puisse collaborer en toutes circonstances pour qu'on puisse démanteler le dernier réseau.
L'un des cadres de base présents de l'événement se réjouit des résultats de l'opération Safi Chamoudjou à Goma. Toutefois, il déplore le manque d'accès dans certains quartiers pour atteindre les victimes en détresse. Jonathan Zadi.
Il y a des résultats qui sont positifs par rapport à cette opération. Et si nous sommes en train de demander maintenant à la jeunesse de la ville de Goma, qui est en train de barricader les rues pendant la nuit, nous souhaiterions à ce que ces rues soient ouvertes.
À noter que chaque Chaque week-end, les maires de Goma procèdent à la présentation des présumés bandits. Déjà, selon lui, parmi les bandits présentés le week-end dernier, l'auditorat des garnisons militaires du Nord Kivu a déjà transféré 23 à la prison centrale de Mounzenze pour purger leur peine. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Par ailleurs, dans la ville de Beni, toujours au Nord Kivu, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés vendredi lors de la manifestation des conducteurs des taxis moto. Ces derniers protestaient contre l'assassinat d'un des leurs, tué la veille par des inconnus. Les manifestants ont saccagé tout ce qu'ils rencontraient sur leur chemin jusqu'à la mairie de la ville où ils se rendaient pour aller déposer la dépouille de leurs camarades. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Retour sur les faits avec Guylaine Kassassia.
Parmi les dégâts commis par les taximens moto en colère, on déplore la mise à sac du bureau urbain des affaires sociales, celui du Parlement d'enfants ou encore les locaux de la Direction générale de migration DGEM. Alex Kioma, le chef du service des affaires sociales, n'a plus une seule chaise dans ce bureau. C'est Debout qui nous reçoit pour expliquer l'ampleur des dégâts matériels subis par ce service.
Ils ont cassé, ils ont détruit, ils ont brûlé tous les documents, les bases de données des enfants, des personnes vulnérables, tous emportés, 4 machines ordinateur, des imprimantes, des projecteurs, 3 disques durs, tout brûlé, donc nous n'avons plus rien, nous sommes aux abois. Nous ne savons pas comprendre comment notre bureau peut être ciblé, un bureau qui n'a rien à faire avec la sécurité. Maintenant, on ne sait pas les vulnérables qui vont venir après et comment nous allons les servir. Et ici, il y a des dossiers de toutes les ONG et toutes les ASBL.
Ces actes ne doivent pas rester impunis, fait savoir Joël Kabouya, encadreur technique du Parlement d'enfants de Beni, dont le local a lui aussi été victime de ces actes de vandalisme. Certaines sources évoquent des arrestations parmi les manifestants, mais la police ne confirme pas pour l'instant cette information. La situation reste toujours tendue dans la ville de Beni, où la corporation des conducteurs des taxis moto avait décrété une journée sans moto-taxi. Ce samedi, Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, signalons une vive tension vendredi à Kalima, agglomération située à plus de 100 km de Kindu dans le territoire de Pangi. Le bilan provisoire fait état de plusieurs étalages des commerçants chis vandalisés par les initiés légats. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, le nœud du problème serait la dissension entre un jeune initié légat et un non-initié dû à l'incompréhension sur le prix d'un cahier. Lawamo Selemani Taylor est sur place pour rétablir l'autorité de l'État. On écoute le ministre provincial de l'Intérieur du Maniema dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Il y avait une altercation entre les initiés de Kimbilikiti contre certains jeunes non initiés. À la base, c'était l'accident d'un initié qui a eu lors de l'achat des cahiers au niveau de Kalima Centre. Alors, ces acolytes qu'on appelle les Batende se sont organisés pour venir venger leurs frères. Je suis en train de me transporter pour aller à Kalima et c'est à partir de là que nous allons vous faire le bilan. Mais de toute façon, on va vous dire au stade de il n'y a pas d'abord mort d'homme. Justement, on nous parle de certains étalages qui ont été vandalisés. Mais avec précision, je vous le ferai parce que moi-même, je suis en train de me transporter avec les éléments de l'ordre pour qu'on puisse rétablir l'autorité de l'État. La paix doit régner dans les territoires de Pangi. Parce que, dernièrement ici, c'était les Mboyo dans les territoires de Kailo. Il y a certains qui sont déjà dans la prison centrale. Et aujourd'hui, c'est le tour de Kalima. Bon, je suis sûr que sur le terrain, nous allons nous rassurer de la situation et quels sont les éléments qui sont à la base de cet incident.
Dans l'actualité aussi, une trentaine d'enfants des policiers viennent de bénéficier d'une formation en coupe et couture, esthétique et art culinaire. Ils ont reçu leur brevet hier lors d'une cérémonie organisée à Kinshasa, une formation assurée par l'AEPED, une association sans but lucratif. Au terme de cette formation, il en ressort qu'il est impérieux d'encourager l'initiative de former les enfants des policiers et des militaires. Témoin de l'événement, Étienne Lissoumbou.
Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant.
Plus joyeux de terminer leur formation, les lauréats ont reçu leur brevet de main des différentes autorités présentes à la cérémonie. Parmi elles, Madame Thérèse Alongaboni, générale de la police et présidente de l'AEPED, donne quelques perspectives d'avenir de l'association.
L'AEPED projette étendre son implantation dans le reste des provinces de notre pays et sa transformation en véritable réseau d'amitié et des liens durables entre les épouses des policiers, tous grades confondus, afin d'assurer l'épanouissement des membres.
Micoletta, représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, encourage le jeune de se former pour être utile dans la société.
Je les appelle non seulement à mettre en application la formation reçue, mais surtout à continuer inlassablement à se former pour assurer non seulement leur avenir, mais également celui de notre beau pays.
À la fin de la cérémonie, un cocktail est organisé à l'honneur de nouveaux lauréats.
Actualité internationale. Le président des Comores, Azali Assoumani, a été légèrement blessé à l'arme blanche vendredi 13 septembre, ce alors qu'il participait aux funérailles d'un grand cheikh du pays, annonce la présidence de cet archipel de l'océan Indien. L'attaque est survenue à Salimani, une ville en périphérie de la capitale Moroni. L'agresseur, qui avait été interpellé par les forces de sécurité, est décédé en détention, selon le procureur de la République. Les circonstances entourant la mort de l'attaquant restent floues. Le président Assoumani a été rapidement pris en charge et ses blessures sont considérées comme non graves.
L'invité.
Il s'agit du docteur Patrick Bala, président de l'ASBEL, Alliance pour la nouvelle vision du Congo. Il nous parle de la loi Bala, un nouveau système politique pour un Congo congolais. Cette proposition de loi a été présentée lors d'une conférence publique à Goma par son initiateur. Mais que peut-on comprendre de cette proposition de loi? Qu'apporte-t-elle de nouveau au système politique congolais? Patrick Bala répond aux questions de Bernardine Diambo.
Docteur Patrick Bala, bonjour.
Bonjour madame.
D'emblée, la loi Bala, c'est quoi?
La loi Bala, c'est un nouveau système politique pour qu'on établisse un Congo congolais, parce que nous pensons que le Congo n'est pas encore nôtre, parce que nous ne maîtrisons pas tous les rouages, les tenants et les aboutissants de notre propre pays. Voilà, depuis 1960, nous sommes en train de patauger. Alors nous avons trouvé deux problèmes capitaux. Il s'agit de la crise d'hommes d'État en RDC, ainsi que le système que nous avons politique, qui sont toujours importés, imposés de l'extérieur. Nous sommes dit que nous considérons le Congo comme un camion en panne. Nous ne faisons que changer de chauffeur pendant que le problème est au niveau du moteur. Il faudrait qu'on se concentre sur le moteur, qui est le système, qu'on ait un système propre à nous, qui s'adapte à nos propres réalités en tant que Congolais, en tant qu'Africains. Nous pensons qu'à partir de nous-mêmes, nous pouvons changer les choses à partir de notre propre réflexion, changer, étant donné qu'avec l'ancien système que nous étudions jusqu'aujourd'hui, que la classe politique a atteint une ménopause, elle ne peut rien apporter.
Et avec cette nouvelle loi, qu'est-ce apporte de nouveau en tant que nouveau système politique?
Nous avons touché à 12 points, on ne peut pas les énumérer ici, mais nous pouvons nous atteler sur 3 points capitaux. Premièrement, le système politique, nous proposons la démocratie populaire à 6 courants politiques. Au lieu d'avoir 1200 partis politiques inutiles et stériles à la République démocratique du Congo, nous proposons 6 courants politiques, faisant en sorte que tous ceux qui ont la même idéologie soient entassés dans un courant politique et qu'on introduise la notion des élections primaires pour avoir de la qualité. Comment lutter contre la médiocrité politique aujourd'hui? Nous avons besoin de la méritocratie, mais il faudrait déjà mettre la compétition, l'émulation au sein de courants politiques pour que les meilleurs sortent, qu'ils aillent compétir avec les autres. Ça fera faire aujourd'hui avec 500 candidats députés nationaux par courant, fois 6, on aura 3000 candidats qui vont compétir pour toute la République au lieu d'avoir 24 000, 44 000. On résout cette question qui fait qu'en sorte au même jour, connaît les résultats des élections au lieu de s'éterniser pour avoir des institutions 8 mois plus tard. La deuxième dimension aussi sur le même plan, c'est proposer le régime que nous apportons présidentiel. Il faudrait que le président de la République qui soit là, qui puisse normalement prendre ses responsabilités totalement face à la nation, face à l'histoire, face à la conscience collective. Qu'il fallait normalement asseoir une politique rotative de la capitale. Vous voyez, la capitale Kinshasa est tellement concentrée qu'il faudrait déconcentrer la capitale Kinshasa, qu'on ait 5 à 6 capitales différentes. On déplace la capitale politique peut-être vers le centre de la République pour des raisons d'abord d'ordre sécuritaire, mais qu'on ait aussi d'autres capitales. La capitale économique, par exemple, dans le Luaba, la capitale parlementaire, par exemple, à Kisangani, la capitale culturelle qui peut rester à Kinshasa, la capitale aussi militaire. Ça va faire en sorte qu'on désengorge Kinshasa et qu'il y ait émulation de plusieurs villes et l'érection de plusieurs villes. Mais on pense aussi à la gestion de province. Vous voyez, avec le système que nous avons, il n'y a que 2 motions ventrales, il n'y a que 2 motions alimentaires pour faire partie de gouverneurs. Mais nous, nous disons qu'on puisse nommer des gouverneurs non originaires avec 2 vice-gouverneurs non originaires, avec un gouvernement provincial qui a 20 ministres provinciaux, mais qui seront contrôlés à la fois par l'Assemblée provinciale, qui aura un rôle de légiférer, de contrôler, mais sans sanctionner, qui fait rapport à qui de droit en termes de sanctions, qu'on décentralise l'IGF qui doit contrôler le gouverneur de province, qu'on décentralise la Cour de compte pour contrôler ce gouverneur. Nous nous disons qu'avec ça, nous pensons qu'on va éviter les crises au niveau des provinces et permettre le développement de ces provinces. Je prends d'abord juste ces trois points.
D'accord. Alors, comment faire parvenir ça aux autorités nationales pour que ça soit légiféré?
Tout à fait, étant donné que c'est une réflexion, c'est soit un député qui va le porter. Certains députés que nous avons contactés n'étaient pas capables d'assumer cette responsabilité, pensant que c'était une responsabilité lourde. Nous avons tenté aussi avec certains sénateurs, c'était la même réponse, madame, mais nous nous sommes dit, étant sur place à Kinshasa, si on ne trouve pas dans notre propre circonscription, on peut toucher d'autres députés dans d'autres circonscriptions, ou soit on voit madame la première ministre pour faire en sorte que ça revête l'aspect d'un projet de loi qu'on pourra soumettre au niveau du Parlement, ou carrément voir le chef de l'État avec qui discuter et voir les voies et moyens pour permettre à ce que le Parlement légifère.
Et d'autre part, peut-être pour terminer, comment permettre aussi à la population de s'en approprier?
Dès la semaine prochaine, nous nous lançons dans la campagne de sensibilisation de la loi Bala, dans les universités, dans les églises que nous avons choisies et dans différents partis politiques afin que le peuple s'en approprie.
Voilà, docteur Bala, Radio Kapuï vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Patrick Bala, président de l'ASBEL Alliance pour la Nouvelle Vision du Congo, répondait aux questions de Bernardine Diambou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.